des mots pour le dire. Dominique Demichel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Alors qu'aujourd'hui en France et dans le monde entier, le concept de fraternité est chahuté et mis à mal, il nous paraît nécessaire de nous arrêter sur ce principe qui fait débat et pose question. Voyage au pays de la fraternité entre utopie et réalité avec le docteur Dominique Demichel.
Ça n'est fini. Le monde des hommes va s'effondrer. Tout ne sera que ténèbres. Et ma cité sera détruite.
J'ignore quelles sont les forces qui me restent. Mais je vous jure que jamais je ne laisserai prendre la cité blanche. Ni notre peuple échoué.
Notre peuple.
Je vous aurais suivi, mon frère.
Dans cet extrait du Seigneur des Anneaux, la première partie, la communauté de l'anneau, Boromir, en mourant, se confie à Aragorn dans un élan de fraternité poignante. Docteur Dominique Demichel, la fraternité est le sujet évidemment de nombreux films, et l'on entend ici le principe déjà de communauté, de peuple. Aujourd'hui, on parle énormément de fraternité en France. C'est à partir de ces réflexions-là qu'a démarré votre réflexion sur la fraternité.
Je ne sais pas trop comment c'est venu. Peut-être qu'il y avait deux directions. Une qui est que... D'abord, moi, je suis l'aîné de 10 enfants, sans raconter trop ma vie. Donc, voilà, la communauté de mes frères et sœurs est un élément très important, et ce lien familial est un élément très très porteur de vie pour nous tous.
Alors, dès le départ, fraternité, on le prend dans les deux sens, le sens familial et le sens plus large, comme ici, liberté, égalité, fraternité, enfin la fraternité qu'il peut y avoir dans un peuple, dans une communauté, on est d'accord.
Voilà, c'est ça, et probablement le deuxième mouvement qui m'a invité à réfléchir là-dessus, c'est à partir d'une structure associative de professionnels de mon métier de psychanalyste, où au fond cette nécessité pour certains d'entre nous de refonder une nouvelle société a été probablement très marquée par la nécessité de créer un autre type de lien dans lequel justement quelque chose autour d'une forme de fraternité. On va revenir après sur toute
bien
la
sûr,
complexité de ce mot-là, de son contenu à la fois puissant, à la fois un peu sombre, un peu louche, un peu bizarre. En tout cas, c'était aussi au cœur de nos préoccupations.
Donc, le vivre ensemble rejoint également la fraternité. Vivre ensemble. Évidemment, on en entend parler énormément de nos jours.
Oui. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de gens quand même qui pensent actuellement que ce qui fonde quelque chose autour de l'inégalité à l'intérieur de notre monde, c'est quand même probablement un défaut de fraternité. Et c'est vrai que les grands récits qui fondent l'histoire, qui portent l'histoire, ont un peu déserté notre champ. Il n'y a plus de grand idéal. On voit au moment où nous enregistrons ces émissions, donc on est au début de l'été 2016, combien la construction européenne, par exemple, semble difficile, manquer d'un espèce de projet fédérateur où, au fond, une forme de fraternité entre les peuples est à la fois requise, attendue, espérée et en même temps difficile à mettre en œuvre.
Alors, liberté, égalité, fraternité.
Voilà. Alors, je pense que ça, c'est bien important de se rappeler de ça, puisque c'est quand même la devise républicaine. Alors si on reprend sur ces trois mots, on s'aperçoit quand même que le déploiement de ces trois substantifs n'a pas la même dynamique. Et que, prenons d'abord la notion de liberté. La liberté, elle peut se penser et elle peut se mettre en acte d'en bas, c'est-à-dire à partir d'un mouvement du peuple. J'entendais ce matin là sur France Culture une sorte d'histoire un peu de France Culture et en particulier les conflits autour du sens de la Révolution française. J'ai pas de compétences particulières là-dessus, mais il était souligné dans ce que j'entendais ce matin que la présence du peuple était quand même très très importante et qu'on pouvait pas simplement se dire qu'il y avait un mouvement de la pensée qui avait émergé à la fin du XVIIIe siècle, mais qu'il y avait aussi une volonté du peuple. Et on voit bien, par exemple, dans les printemps arabes, par exemple, dans d'autres lieux, combien cette puissance venant d'en bas a été à l'origine de cette volonté de mettre en place quelque chose autour de la liberté. Dans certaines circonstances, ce mouvement, ce désir, peut venir d'en haut. Et on pense par exemple à la Glasnost, à la Perestroïka, où là, j'allais dire, c'était le gouvernement de l'ex-URSS qui a mis en place quelque chose de l'ordre d'un déploiement de cette liberté. Toujours est-il que, quand c'est décidé, la liberté, elle peut devenir une sorte de droit fondamental. On fait des lois qui la garantissent et au fond, les gens sont libres. En même temps, cette liberté s'articule évidemment dans une intersubjectivité, c'est-à-dire il y a ma liberté, mais il y a aussi votre liberté à vous, là, qui êtes là présent ce matin, et que cette articulation n'est pas obligatoirement simple.
Alors pour l'égalité également, des lois peuvent être votées pour promouvoir cette égalité.
Voilà,
on l'entend bien sûr.
Voilà, cette liberté se vit, et cette égalité, elle peut être décidée.
C'est-à-dire, en haut pareil,
on va décider, par exemple, pour quelque chose qui est un petit peu classique, c'est un petit peu du cliché, mais on va décider qu'il va y avoir une égalité, je ne sais pas, de statut entre les hommes et les femmes, une égalité de salaire entre les hommes et les femmes, une égalité d'éligibilité et surtout d'élection de manière pratique. L'éligibilité, c'est un peu ancien, hein, mais de place dans les listes électorales. Donc ça, on le décide d'en haut. Ou c'est réclamé d'en bas.
Alors, par contre, la fraternité, on ne peut pas obliger les gens à être fraternels entre eux. Ça paraît difficile, en tout
voilà,
cas.
Voilà, c'est ça. C'est ce que j'avais envie, en effet, de souligner. C'est-à-dire que la liberté et l'égalité, c'est quelque chose qui peut se tenir, se décider. On peut faire de loi en disant, on va vraiment promouvoir la liberté, on va promouvoir l'égalité, mais... Et on pourrait se dire, mettons, à partir du mois de septembre, les hommes et les femmes à travail égal vont être payés de manière égale, point. Ça se décide, et au 1er septembre, c'est une loi. Et au fond, voilà. On peut pas dire, à partir de lundi prochain, on va être tous frères. Hein? Voilà, c'est pas...
Ça paraît difficile.
Il peut y avoir ce désir, mais il n'y a jamais aucune loi, aucune volonté, qu'elle soit émergente ou qu'elle soit et ascendante ou qu'elle soit descendante par la volonté d'un pouvoir qui va pouvoir décider la fraternité.
Alors on entend déjà tout de suite que la fraternité, forcément, c'est un rapport à l'autre, c'est une manière d'aborder l'autre, celui qui est en face de moi, mais aussi d'une manière beaucoup plus large, dans le cas par exemple d'une nation.
Oui. Alors, par exemple, au niveau d'une nation, on peut se rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'humain, j'ai envie de dire plutôt que des droits de l'homme, parce que déjà, on est dans quelque chose qui est un petit peu compliqué, dit que les hommes ou les humains sont doués de raison et de conscience et ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Donc, c'est quand même intéressant de voir que dans une fraternité de proximité entre le frère et la sœur, entre deux frères, entre deux sœurs, il y a quelque chose qui s'expérimente, qui s'éprouve, mais que de manière globale aussi, il y a eu cette nécessité de l'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus global. Et il faut se rappeler que l'article 2 de la Constitution française de 1958 redit exactement la même chose à partir probablement de cet idéal révolutionnaire de la Commune. On peut se rappeler que Robespierre disait « la fraternité ou la mort », ce qui est un petit peu problématique quand même, hein, surtout que bon, Robespierre, c'était pas un tendre quand même, et je sais pas si c'était vraiment un frère. En tout cas, ça permet de voir, on va y revenir je pense un peu plus tard, aux ombres de la fraternité. Hein. Déjà, l'ombre de la fraternité, on pense par exemple à tous ces fanatiques qui s'appellent frères entre eux et qui de temps en temps en plus le sont.
Alors quelles sont les valeurs qui sont mises en avant derrière le terme fraternité, quand on parle des droits de l'homme ou d'une constitution?
Alors moi, j'ai envie de revenir à votre question antérieure, qui était la question de l'autre. Parce que probablement, cette question de l'autre, elle est en effet tout à fait fondamentale, parce que la liberté, au fond, je peux la mettre en scène, point, parce que c'est la loi. L'égalité, de la même manière, je vais traiter l'autre, voilà, égalité vis-à-vis de soi-même, et au fond, on accepte cette notion sans plus. La fraternité, elle est une promesse, c'est-à-dire elle est toujours incertaine et probablement elle est comme une sorte de processus, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas certain parce que l'autre n'est pas toujours au rendez-vous. La fraternité, elle suppose ces deux lois fondamentales de l'éthique, donc ça rejoint votre question de ce qu'ils fondent, c'est-à-dire le respect et la bienveillance. Alors, le respect et la bienveillance, c'est vraiment quelque chose d'important parce que on peut tout à fait respecter l'autre et ne pas être bienveillant. Hein. Mmh. Par exemple, tu fais ce que tu veux, tu as envie de te suicider, eh ben, salut mon gars, moi je respecte ton désir et au fond je ne me mouille pas. Hein. Voilà. Alors on peut aussi de temps en temps être bienveillant vis-à-vis de l'autre, mais ne pas le respecter. Par exemple, au nom de ma bienveillance, je vais décider ce qui est bon pour toi. C'est-à-dire, je sais, moi, et je t'assure, et je suis parfaitement sincère vis-à-vis de toi, on peut dire à l'autre, hein, je décide pour toi. Donc, on voit bien combien l'articulation entre ce respect de l'autre et la bienveillance sont fondamentales pour accéder à cette notion toujours difficile, toujours une épreuve pour nous tous, de la fraternité.
Donc, avec la fraternité, on est bien au cœur d'une altérité.
Je crois qu'on est au cœur d'une altérité. Et c'est d'ailleurs vraiment intéressant de se rappeler que l'étymologie, enfin le mot en hébreu fraternel vient de deux mots qui sont très opposés et vraiment très étonnants. Moi, j'ai été tout à fait stupéfait quand j'ai lu ça quelque part. Ces deux mots qui sont l'autre et l'unité. Alors, unité, fraternité, on comprend ça bien, qu'il y a quelque chose de cette pulsion d'unité, mettons, dans la fraternité. Mais l'autre, c'est étonnant. Et je trouve que dans cette fraternité, dans ce mot fraternité, on voit bien cette tension entre une altérité toujours difficile à mettre en œuvre et à vivre, et une unité toujours souhaitée, mais tout autant laborieuse, au fond. Hein. Parce que la fraternité, elle ne se pose pas avec le semblable. Si l'autre, c'est le même que moi, bah évidemment, c'est mon frère. Mais ce n'est pas vraiment mon frère, puisque c'est du même. Donc, je suis dans une forme de proximité entre lui et moi, qui fait que, comme il n'y a pas de différence, on ne peut pas vraiment parler de fraternité. Il me semble que la fraternité, elle ne se pose qu'à partir du moment où il y a un autre, un alter, c'est-à-dire il y a une altérité, et de temps en temps, il y a une altération, d'ailleurs, hein, de la relation, par exemple. Donc, je crois que c'est bien important. L'altérité, c'est la condition de l'épreuve de la fraternité et de l'espace où ça prend son ampleur, où ça prend sa profondeur, où ça prend sa valeur. Et c'est simplement lorsque il y a un entre-nous de singularité et de différences qui s'affrontent, de différences qu'on met à l'épreuve, quoi qu'il en coûte, que la fraternité peut se déployer.
Très bonne entente, on est là l'une pour l'autre.
Il y a compétition et plaisir.
Et c'est de composer avec, avec tout le monde, ça, nos forces et nos faiblesses.
Et se donner à fond pour les unes pour les autres.
C'est se dépasser ensemble.
Donc au final, on a l'impression d'être une famille.
Être solidaire pendant le match, mais aussi après.
Dans les bons comme dans les mauvais moments, c'est important.
Si on n'est pas trop en forme, la copine elle va prendre le dessus. Et puis bah, si un jour elle n'est pas en forme, c'est moi qui vais prendre le dessus.
Nous, il y a les très hétérogènes.
Nous, on est hétérogènes.
Elle est très très hétérogène.
On a de toutes les générations dans l'équipe.
C'est vrai.
On a des plus jeunes, on a des moins jeunes, on a des très vieilles.
Il y a des différences d'âge importantes, des qualités techniques différentes.
Des joueuses un peu plus expérimentées, des jeunes qui ont plein d'envie.
On a fait du ski aussi ensemble.
On a fait une rando de vélo, on fait du paintball, on fait du kayak,
de la natation, des raclettes, des... On va se faire engueuler.
Des raclettes light.
Oui, on va manger au restaurant.
Du barbecue, voilà.
Des grands événements, jour de l'an, anniversaire. Les anniversaires, on les fait...
On les fait avant, on les fait après,
on les fait tout le temps. On aime bien se retrouver tout ensemble, hors foot. Ça fait toujours du bien et c'est toujours bon pour le collectif. Ouais. Non, c'est sûr. Enfin, je pense que dès l'instant où l'ambiance est bonne sur le terrain, quand on est en difficulté, c'est beaucoup plus facile de s'entraider quand l'ambiance est bonne.
Fille de foot, c'est un tout petit film, un petit clip, réalisé par le Crédit Agricole. L'esprit d'équipe, docteur Dominique Michel, on est au cœur de la fraternité. Alors, la fraternité, est-ce que c'est un art de vivre ensemble ?
Est-ce que c'est un art ? C'est compliqué de définir l'art, là, vous me prenez un petit peu au dépourvu. Pour moi, l'art, c'est l'idée de, à partir de quelque chose qui se déploie, on en tire un symbole, et ensuite, on rend le symbole par une mise en scène. Alors, est-ce que la fraternité, c'est un art ? Oui, probablement, puisqu'il me semble que dans la fraternité, il y a quelque chose d'une réalité au départ, il y a la nécessité d'une dimension symbolique, et puis il y a un rendu. Est-ce que c'est un art de vivre ? Ouais, sûrement du côté du vivre, il n'y a pas de doute. Et ensemble, ensemble, puisqu'il n'y a pas de possibilité de penser la fraternité avec une seule personne.
Oui. Puis on sent bien que dans ces joueurs, dans cette équipe, qu'ils ont des petits trucs, ils ne sont pas ensemble que pour les matchs, ils sont à côté. Et puis il y a en effet un beau panel
de singularités
qui font un travail d'équipe.
Il y en a qui sont plus en avance, il y en a d'autres qui sont plus doués, il y en a d'autres qui, etc. On voyait bien cette... Et c'était intéressant d'ailleurs de voir que finalement, la réflexion sur la fraternité dans ce petit extrait, c'était du côté de la diversité.
Voilà. Hein ?
Ouais. Voilà, c'était finalement, c'était pas, on est tous dans un espèce de collectif uni, uniforme, on est tous pareils, parce qu'on est tous frères, c'est, on est tous différents.
On est tous différents.
Et c'est cette différence qui fait la possibilité d'une fraternité, pas qui fait la fraternité, hein, mais qui fait la possibilité d'une fraternité.
Alors, dans l'histoire de la fraternité, évidemment, il y a des mythes, des grands mythes fondateurs, des frères célèbres, Romulus et Rémus, Caïn et Abel.
Voilà, ouais, tout à fait. Dans beaucoup de mythologies, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de mythe fratricide fondamental, fondateur, originel, on pourrait dire, hein, du côté de l'origine. Donc Romulus et Rémus, en effet, il y en a un qui va tuer l'autre. Dans la mythologie égyptienne, il y a Seth et Osiris aussi, hein, Isis et Osiris, le frère et la sœur, mais il y a aussi Seth qu'on oublie souvent, Seth qui est l'incarnation du mauvais, du méchant, pour en faire un tout petit peu court. Hein. Et puis ensuite, il y a ce binôme Isis et Osiris.
Est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu sur Caïn et Abel ?
Oui, alors Caïn et Abel, bon, très honnêtement, c'est compliqué Caïn et Abel. Hein. Vous vous rappelez, il y a Adam et Ève au départ. Adam et Ève, dont je rappelle qu'ils sont dans le paradis et que ce sont deux enfants. Hein. J'entends encore, je ne vais pas me faire peut-être que des copains ici, mais tant pis, j'entends encore des gens parler du péché originel quand Ève va chercher le fruit ici. Mais je rappelle qu'il n'y a absolument pas la notion de péché originel dans tous ces textes-là, que le péché originel, c'est une invention de saint Augustin au 5e siècle. Hein. Il est né en 454, je crois, et que lui, il avait toute son histoire un peu passée. En gros, c'était un joyeux luron pendant une première partie de sa vie, et qu'il avait peut-être des histoires... Bon, n'en parlons pas, parce que le psy va dire que les relations avec sa mère, ça ne devait pas être simple non plus. Enfin bon, c'est toute une histoire, là, mais une histoire assez classique. Ce qui est intéressant, c'est que ensuite, Adam et Ève, ils deviennent des adultes. Ils deviennent des adultes en accédant à l'arbre de la connaissance, puisque quand ils sont enfants dans le jardin, ils sont tout nus et ça les gêne pas. Bah, vous mettez un petit garçon et une petite fille sur la plage tout nu en train de faire des pâtés de sable, ça gêne personne. Hein, voilà. À partir du moment où il y a l'accès à une maturité sexuelle, on pourrait dire sexuée, mais une maturité dans le sens le plus large du terme, c'est-à-dire l'accès à la reconnaissance, c'est-à-dire du bien et du mal. On n'est plus dans l'enfance. Voilà. Donc, ce qu'il faut dire surtout, c'est remercions Ève. Remercions Ève. C'est elle qui a sorti l'humanité de l'enfance. Hein, sinon, ils étaient encore le petit garçon et la petite fille, tout nu dans le jardin, avec le grand-papa, maman, à savoir Dieu le Père ou la Mère en même temps, les deux en même temps. Et puis, heureusement, Ève s'est dit, bon, on va peut-être sortir un tout petit peu là. Donc, elle cueille le fruit. Elle dit à Adam, viens, je crois qu'il faut quand même qu'on grandisse tous les deux. À ce moment-là, ils reconnaissent leur singularité, ils reconnaissent leurs différences, et ils sortent pas parce qu'ils ont fauté et qu'ils sont punis, mais parce que ensuite on rentre dans la vraie vie, c'est-à-dire la vie des adultes, et c'est un petit peu plus compliqué. Alors ensuite, à la génération d'après, vous savez, les psys, ils adorent dire que les histoires, malheureusement, je sais pas s'ils adorent, mais ils le disent, ouais. En tout cas que les histoires se répètent, on s'aperçoit qu'il va y avoir Caïn et Abel. Alors, on pourra peut-être faire une autre fois, si vous le souhaitez, peut-être avec des gens plus compétents que moi, là-dessus, Caïn et Abel, ils n'ont pas tout à fait le même statut, puisque Caïn, c'est le terrien, c'est le glébeux, c'est l'agriculteur, c'est le sédentaire. Michel Serres vient de sortir un livre récemment où il reprend ça, je n'ai pas lu le livre, mais je sais qu'il insiste beaucoup sur ce côté sédentaire de Caïn et ce côté nomade, oui, d'Abel. Voilà. Et puis, Abel, lui, c'est au contraire, son nom, ça veut dire le souffle, la buée, en gros, celui qui vaut pas grand-chose. Hein. Je rappelle aussi que Adam et Ève n'ont pas eu d'enfants. C'est Ève qui a eu des enfants, et elle a fait ses enfants avec Dieu. C'est un scoop, ça, peut-être pour certains de vos auditeurs, mais non, elle fait ses enfants avec la divinité, c'est-à-dire elle est dans une position de grande déesse-mère. Et puis, il y a quand même le père qui intervient là-dedans, et le père, il n'est pas représenté ici par Adam, il est représenté par la divinité, par Dieu. Et pour des raisons qui sont très compliquées, on va peut-être pas tout développer ici, parce qu'il y aurait plein de choses à dire, et c'est complexe, et peut-être il faut que j'y réfléchisse encore plus. Toujours est-il que Dieu va accepter l'offrande de l'animal d'Abel, le nomade, et de refuser celle de Caïn, le terrien. Voilà.
Les ennuis commencent.
Les ennuis commencent, et à ce moment-là, évidemment, on pourrait dire, ces deux enfants qui sont les fils de la mère ont du mal à se reconnaître comme étant les fils du père. Et probablement le fils du père, c'est-à-dire Caïn, lui, à ce moment-là, il souffre. Et il va tuer Abel. Et là, l'histoire continue, mais il faut quand même bien se rappeler que toute la descendance, dans cette filiation mythologique, bien évidemment, toute cette filiation, ce sont les enfants de Caïn. Quand
tout dépend de ce meurtre originel. Ouais.
Voilà, mais il y a ce meurtre au départ. Voilà. Donc j'ai bien envie qu'on se rappelle que dans l'idée de la fraternité, il y ait cette sorte de meurtre fondamental.
Ça veut également dire que dans la fraternité, il y a cette singularité.
Il y a cette singularité.
À la base, on a beau être frère de sang, il n'empêche que chacun est un individu singulier.
Tout à fait. Ou en tout cas, oui, il y a un individu singulier et qu'il y a une singularité qui va être impossible à vivre par l'autre. C'est-à-dire, au fond, la spécificité d'Abel, à savoir d'avoir été agréé et reconnu par le père, c'est insupportable pour Caïn.
Alors, est-ce qu'on peut dire que dans les mythes, généralement, ça se termine mal ou pas forcément, pas nécessairement
Dans les mythes de la mythologie, en général, ça se termine mal.
Ça se termine mal.
Ça se termine mal.
Les frères et sœurs ou les frères et frères, généralement, ça...
Voilà. Alors, ça se termine mal dans le sens où il y a un meurtre.
Où il y a un meurtre.
Mais pour reprendre, par exemple, l'histoire de Isis, Osiris et Seth, Isis et Osiris, le frère et la sœur, dans la mythologie égyptienne, le frère et la sœur sont des frères et sœurs éventuellement réels, mais aussi des frères et sœurs symboliques. Donc on voit bien ici qu'il y a une fraternité symbolique qui est fondatrice, qui est originelle là aussi. Eh bien, ça va se réparer, parce que Isis, le principe féminin ici, va aller chercher les petits morceaux de son frère, elle va les rassembler. C'est important de se rappeler d'ailleurs que le seul morceau qui manque, c'est le pénis de son frère ou le phallus de son frère, qu'elle va avoir du mal à le retrouver. Donc on voit bien là que la singularité de Osiris, par exemple, c'est-à-dire dans sa singularité d'homme dans le sens masculin du terme, il faut la réintégrer dans le couple masculin-féminin et que c'est compliqué.
Docteur Dominique Desmichel, on arrive au terme de cette émission. Un dernier mot, ce meurtre fondateur entre frères, qu'est-ce qu'il symbolise ?
Je pense que c'est intéressant de le penser en termes d'altérité intérieure. C'est-à-dire, chaque part de K1, chaque part de KL, de K1 et de Abel, on l'a à l'intérieur de vous-même. Vous voyez mon lapsus, voilà, un psychanalyste qui se fait des lapsus, il est en général pas si mauvais que ça. Alors je mets un petit peu de crédit ici pour dire au fond que vous voyez mon lapsus disait l'espèce de mélange entre les deux, hein. C'est-à-dire à l'intérieur de nous-mêmes, il y a du K1 et à l'intérieur de nous-mêmes, il y a d'Abel. Et qu'au fond entre les différents personnages d'ombre qui nous habitent, par exemple, nous avons toujours à nous débrouiller pour que notre moi décide, que notre moi ne se fasse pas bouffer par un personnage d'ombre, voyez. Et on pourrait dire que, par exemple, chez un homme, il peut y avoir l'enfant triste, il peut y avoir l'enfant déçu, il peut y avoir le don juan, il peut y avoir le violent, il peut y avoir l'agressif, et que tous ces personnages naviguent à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, c'est le rôle de notre moi de tenir ces personnages. Et dans certaines circonstances, eh bien, il y a une lutte fratricide à l'intérieur des différents personnages qui nous composent. Alors, il y a des personnages qui sont de notre sexe, hein, c'est-à-dire ce sont nos frères. On a par exemple de temps en temps aussi la figure du grand frère, du frère aîné, du double par exemple, qui est celui qui a un petit peu d'avance sur nous en termes de conscience, qui peut nous aider. Mais il y a aussi tous ces personnages à l'intérieur de nous-mêmes qu'on ne supporte pas. Et on retrouve à ce moment-là le meurtre fratricide en permanence dans notre théâtre intérieur.
Ainsi s'achève notre émission « Des mots pour le dire ». Un grand merci au docteur Dominique Desmichel, à Émilie Glory qui assurait la technique. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, soyez fraternels.